pas spécifique à psychanalyse de l'Alsace. D'ailleurs, il a écrit après psychanalyse de Paris, qui a créé aussi des rebours, pour ne pas dire des scandales. Papa était naturellement une personnalité. Alors moi, je voudrais juste dire quelques mots, si vous m'en donnez l'occasion, sur son histoire. Parce que l'histoire de mon père explique en grande partie psychanalyse de l'Alsace.
Volontiers.
Mon père est né à Courcelles-Chaussy, en Moselle. En Moselle, qui était allemande quand il est né, puisqu'il est né en 1905, d'une mère suisse et d'un père alsacien mulhousien. Un père nommé pasteur à Courcelles-Chaussy, qui est une paroisse protestante réformée. Et tenez-vous bien, dans cette petite commune, c'est quand même 5 000, 7 000 habitants, de Courcelles-Chaussy, qui est à 20 km de Metz, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, venait très régulièrement. Alors, comme papa était romancier, j'ai vérifié, et je me suis dit, attention, il raconte peut-être un certain nombre de choses pas très justes. Et le maire de Courcelles-Chaussy, il y a 2 ans, m'a dit, on a vérifié les archives, Guillaume II est venu 17 fois à Courcelles-Chaussy. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord, l'empereur et l'impératrice avaient créé un pensionnat pour jeunes filles à Courcelles-Chaussy, d'une part, et d'autre part, il avait un pavillon de chasse où, semble-t-il, Guillaume II aimait beaucoup venir. Ceci pour dire, et en 1917, mon grand-père, avec mon père, qui à ce moment-là était encore petit, était enfant, ont quitté Courcelles-Chaussy et se sont réfugiés en Suisse. Ma grand-mère est en Suisse, il y avait une certaine logique à ce qu'ils aillent se réfugier en Suisse vu les combats d'alors. Et ils sont revenus en France, en l'occurrence à Metz, et puis en Alsace, après la guerre. Ceci simplement pour dire que papa était une personnalité qui avait vécu ses multiples cultures. Une mère suisse, une admiration pour Guillaume II qui venait au presbytère, paraît-il, très régulièrement. En même temps, il n'a pas souhaité rester à Courcelles-Chaussy et, d'après ce qu'il écrit, il était aux anges, mon grand-père, quand la France a gagné la guerre, alors qu'il recevait Guillaume II très régulièrement. Donc il y avait ce mélange, la Suisse, la Lorraine, l'Alsace, et tout ça fait que...
Ça lui a permis de prendre de la hauteur et de regarder l'Alsace un peu mieux que
oui,
s'il était à 100% là.
Tout à fait,
c'est ça.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que le livre est une réflexion sur ce qu'une famille qui a vécu ça, comme un certain nombre d'autres familles alsaciennes, hein, je ne dis pas le contraire, mais peut avoir comme réaction par rapport à l'Alsace et peut analyser l'Alsace de façon à la fois distancée et à la fois tout en faisant partie.
Alors cette fameuse vérité alsacienne, il en parle évidemment à longueur de page dans son livre. Il est dit aussi, cela dit, j'accorde à mes contradicteurs qu'il est bien difficile de définir la vérité alsacienne. S'il est un pays où la parole de Pilate, qu'est-ce que la vérité, s'avère juste, c'est bien l'Alsace. Il n'est pas d'affirmation que l'on y puisse aussitôt renverser. Le contraire est toujours vrai en Alsace, a dit un philosophe. Si bien que ce n'est pas sans mélancolie que je relis mon ouvrage. Tu aurais pu dire que, oui, mais ce que tu as dit est également vrai. Alors il faut tout dire. Tout dire. Il faudrait 30 volumes et chacun contredirait l'autre. Ce pays est un paradoxe vivant. Ce pays est un paradoxe vivant, pas cette région.
Oui, enfin, le paradoxe vivant, c'est quand même
l'Alsace, tel que papa et sa famille l'ont vécu. C'est intéressant. On parlait du côté tellement original et curieux, provocateur de mon père. Il faut savoir qu'il a commencé par être pasteur pendant 9 ans. Et ensuite, il est devenu avocat. Alors, pour rire un peu, il a gardé la même robe et il est passé de pasteur à avocat. Il a juste rajouté, vous savez, il y a l'hermine là.
Le sens de la sobriété et de l'économie.
Donc pour dire qu'il y a plein de paradoxes, il y a plein d'éléments divers, variés, et fondamentalement, il était écrivain. Parce qu'il a quand même publié 7 ouvrages, dont 3 romans, dont d'autres essais, et je dirais qu'au fond de lui-même, moi, quand je voyais mon père, je le voyais de 6h du matin à 9h en train de taper avec sa machine à écrire ses livres. De très nombreux livres qui n'ont jamais été publiés. Et le côté provocateur a fait que très souvent des éditeurs ont dit non, ça nous paraît très difficile.
Il a beaucoup bataillé, hein. Il a beaucoup bataillé contre ses contradicteurs. Ça a été chaud pendant un moment après la publication du livre.
Tout à fait. Alors, à la fois, ça a été chaud et à la fois, ça lui plaisait. Il aimait bien Spagaré. Ça, c'est la réalité.
Provocateur.
Hein, ouais. Et il y a eu des débats partout en Alsace sur la façon dont il présentait les choses. Et alors, une chose très importante, il n'a pas voulu que le livre paraisse en allemand, en Allemagne. C'était une question de principe pour lui. Il a dit, les Allemands risquent de l'utiliser et de dire, vous voyez, l'Alsace est allemande. Et culturellement, historiquement, allemande. Et jusqu'au bout, alors qu'il avait des propositions d'éditeurs allemands nombreux, il a refusé que ça paraisse en allemand. Et c'est tellement curieux cette histoire que, en discutant avec différentes personnes ces derniers temps à Strasbourg concernant la réédition, on s'est posé la question, ne faut-il pas maintenant, dans un contexte totalement différent, le publier en allemand. Et j'ai 2 sœurs, et une de mes 2 sœurs m'a dit « Papa ne voulait pas, il n'en est pas question, nous ne le publierons pas en allemand. » Alors, je ne sais pas si les choses vont évoluer, mais enfin, toujours est-il que ça montre aussi ce côté double. À la fois, l'Alsace est germanique de culture, et à la fois, elle veut la France, elle aime la France, elle veut être française. Et c'est ce paradoxe que papa développe tout au long de ses pages.
Et puis au cœur du texte, au cœur du livre, j'ai noté aussi ces phrases. L'Alsace a un besoin immense d'être aimé, oui, adopté, enveloppé. Rien ne lui fait plus peur que d'être oublié, de paraître étrangère au sein de la nation française. Est-ce que 67 ans après, ça reste juste ça ?
Oh oui, oh oui, c'est pas à vous que je le dirais. Lisez les journaux, l'Alsace a peur, effectivement, de ne pas être prise en compte en tant qu'Alsace. Elle a peur d'être oubliée, elle a peur de ne pas être aimée, elle a peur de ne pas être comprise. Et à ce point de vue, cette phrase est vraiment extrêmement prophétique. Je dois dire.
À l'époque, je pense qu'il n'y a pas eu conflit sur cette chose-là. Il y a peut-être eu une unanimité quand même par rapport à ce qu'on vient de dire sur cette phrase-là, non ? J'imagine mal qu'il y ait eu conflit.
Oui, non, ce problème-là ne posait pas de problème majeur. Quand il disait les grands artistes alsaciens, c'est Grunewald, qui est d'origine germanique, c'est Fischart, c'est... on imagine Goethe, qui est... Goethe a fait 2 ans à Strasbourg, si je ne me trompe. C'est vrai que ça, en 1951, affirmer ça, ça...
Il fallait être couillu, comme on dit quoi. Comme on dit
passait pas ouais. Facilement.
Voilà.
Mais je voudrais quand même dire que le cœur de ce livre, c'est pour moi une phrase, et je crois qu'elle est plus vraie que jamais. L'Alsacien est né, est une personnalité particulière, il est né international. Et je trouve que cette phrase est tout à fait extraordinaire, et on peut citer des exemples. Alors, le meilleur exemple, c'est celui-là, c'est le dessin de Tommy Ungerer. S'il y a un homme qui est bien international, c'est bien celui-là, qui a vécu, comme chacun sait, aux États-Unis, qui est très apprécié en Allemagne, qui a vécu ou qui vit encore, je ne connais pas les détails, en Irlande.
Et qui a son musée à Strasbourg.
Mais l'autre exemple particulièrement frappant, et qui évidemment a touché beaucoup papa, puisque c'était un ami de la famille, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, s'il y a un homme international, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a travaillé à Lambaréné, à l'entrée, là, s'il y a quelqu'un qui est né international, c'est bien cet homme-là, qui, comme vous le savez, a eu de la peine à se faire reconnaître en France.
Oui, tout à fait, à Paris, on ne le connaissait pas.
À Paris, on ne le connaissait pas. Et je me permets de dire, alors ce n'est pas tout à fait l'actualité, mais enfin, je me permets de dire, je ne sais pas s'il y a des élus strasbourgeois ici, je me permets de dire quand même qu'il est frappant qu'il n'y ait pas de statue d'Albert Schweitzer ou une grande avenue Albert Schweitzer à Strasbourg. C'est quand même extraordinaire. Vous avez une statue de Gandhi, tant mieux pour lui, hein, j'ai rien contre Gandhi, que les choses soient claires. Hein. Vous n'avez pas de statue d'Albert Schweitzer. Vous n'avez pas d'avenue Albert Schweitzer. Vous avez une petite place, Albert Schweitzer, au Neudorf. Alors, j'ai rien contre le Neudorf, que les choses soient claires. Mais enfin, avouez que c'est quand même étonnant. Et s'il y a un homme international, c'est bien celui-là, prix Nobel de la paix.
Clairement. Bernard Romault, comment on peut expliquer que ce livre, Psychanalyse de l'Alsace, et finit par faire référence, et finit par se passer, à vivre sa vie, bien au-delà de sa durée de l'édition primaire. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en Alsace, c'était il y a 30 ans, hein, pardon de raconter cette anecdote très perso, mais elle est pertinente, là. Quand je suis arrivé en Alsace, venant de Bourgogne, un ami, j'étais à Mulhouse, je suis rentré en Alsace par Mulhouse, je suis resté 8 ans avant de venir ici, m'a dit, si tu veux comprendre l'Alsace, faut que tu lises Psychanalyse de l'Alsace. On était début des années 90, il m'a donné... Psychanalyse de l'Alsace. Je l'ai lu deux fois, je l'ai prêté à quelqu'un, on ne l'a jamais rendu. J'en ai retrouvé une autre édition, je l'ai prêté de nouveau, on ne l'a jamais rendu. Je suis content qu'il soit réédité aujourd'hui. C'est vrai en plus. Comment on peut expliquer qu'au fil du temps, ce livre soit devenu aussi emblématique? Et puis, quelle est sa pertinence aujourd'hui?
Il était emblématique dès le départ.
Il était emblématique dès le départ. Et. Tu parlais de tes souvenirs d'arriver en Alsace. Mes parents, quand ils sont arrivés en Alsace, c'est à l'époque de l'apparition du livre, on a acheté cet ouvrage. Dans la bibliothèque de mes parents, il y a cette édition-là, qui est précieuse. Ils arrivaient de Lille, c'est la première chose qu'ils ont acheté. Ce livre a eu un succès national. Et je pense que ça, c'est important. Et ça relativise aussi, on faisait référence à l'article à la une du Figaro, certes écrit par un Alsacien, un Mulhousien d'origine, il y a une reconnaissance rapide, immédiate de la part du livre. De cette spécificité alsacienne. Je crois que c'est quand même à rappeler qu'on a souvent tendance à toujours victimiser, à croire que Paris ne comprend pas, ne nous aime pas, etc. C'est un bouquin avec un best-seller national qui a au contraire suscité des polémiques en Alsace. Oui. Parce que ce qu'il dit, et c'est très intéressant, c'est en ça que son livre est un livre qui est toujours utile, on parlerait après, un peu daté, sur bien des égards, mais très utile pour la compréhension de l'Alsace de l'après-guerre. Il fait un tableau sociologique, c'est plus une sociologie pour moi d'Alsace qu'une psychanalyse. Il fait une sociologie d'Alsace et des milieux alsaciens qui montrent cette mosaïque extraordinaire, pour moi passionnante, de diversité alsacienne entre les Aurinois, les Marinois, entre les protestants et encore les différentes variétés de protestants, les catholiques. Enfin, on a la gauche, la droite, et le cléricalisme, etc. On est sur une région qui est passionnante par sa diversité, dont il a su, à l'époque,
extrêmement bien tracé les contours. Et d'un point de vue assez dynamique, puisqu'il balaye à peu près tout le spectre des réalités sociologiques alsaciennes. Et donc ce livre, en effet, dérangeait, parce que ce qu'il dit, notamment sur une certaine bourgeoisie patriote alsacienne, et notamment protestante mulhousienne, donc issue, mais avec cette distance que Jean-Louis au fait rappelait, vivant en Moselle, ayant passé une partie de la guerre en Suisse, donc avec pas tout à fait le même vécu, et du coup une capacité d'observation très aiguë, et c'est en ça qu'il est extrêmement passionnant. Frédéric Offet, il a un regard très aigu, très pénétrant, où il est capable de critiquer, j'ai envie de dire, son milieu, son camp, c'est pas son camp, c'est son milieu d'origine, et c'est ça qui est très intéressant. Et de ce point de vue-là, c'est un des livres clés pour comprendre, peut-être pas l'Alsace d'aujourd'hui, mais d'où elle vient. Et aussi par ses oublis, par ses manques. Parce que moi, ce qui me frappe dans ce panorama dense, complet, très structuré, un plan, et là, il a été mis très bien en début d'ouvrage, on voit bien la géographie de l'ouvrage. Ce qui manque, c'est cette Alsace au fond qu'on aime tous. C'est une Alsace rebelle, une Alsace qui est hors des sentiers battus. Ça a quand même été une terre de syndicalisme extrêmement vivant, très, très dur. À un moment du Front populaire, c'était la région de France où il y avait le plus de grèves. On ne sait absolument pas de ces réalités-là. C'est une terre associative extrêmement vivante, on le sait très bien, les sociétés d'histoire, les choraux, etc. C'est une terre aussi qui a un art de vivre qui est très développé, qui est aussi une protection contre les malheurs extérieurs. On développe un art de vivre, la maison, la nourriture, le partage, la convivialité, un dialecte partagé. Et on est dans cette réalité-là, mais il n'en parle quasiment pas. Donc ça, c'est l'humour aussi qui est très très peu présent. C'était un polémiste, mais je ne sais pas s'il était drôle dans le privé. Là, il n'y a pas du tout cette dimension quand même extrêmement forte de l'Alsace, pour moi la plus attachante, étant un Alsacien de la deuxième génération. On est dans cette réalité-là alsacienne qui fait consensus aujourd'hui, qui fait le bonheur des touristes et des gens qui prennent le temps de s'intéresser à cette région. Il n'en parle pas du tout. Il n'est pas question, cela dit, c'était l'époque aussi, de femmes. Les femmes sont très présentes dans la société alsacienne, c'est une sorte de matriarcat. Et Jean-Louis parlait de l'importance de sa mère. Et on n'a pas cette dimension-là aussi qui manque. C'est quelque chose de très aigu, de très profond, qui bouscule, d'où les réactions, en effet, et notamment des milieux patriotes alsaciens de l'après-guerre. Et on a là un livre qui est très fort, qui est honnête, qui ne va pas au bout de certaines choses, qui fait des impasses sur un certain nombre de sujets. Les aspects économiques, par exemple, sont très peu traités également. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un livre daté. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais livre, c'est pas un livre utile, mais un livre daté. Parce que l'erreur aujourd'hui serait de croire que cet Alsace qui décrit, ou cet Alsacien qui décrit, c'est le mot qu'il emploie le plus au début du livre, c'est un divisé. Divisé entre ces deux cultures, c'est le fameux dessin de Tony Ungerer, mais il est où là-dedans, quoi? Il écoute, mais il parle quoi? Il dit quoi? La bouche est fermée, les yeux sont fermés. Sur le dessin de Tony Ungerer, c'est assez représentatif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette double culture? Qu'est-ce qu'on fait de cette division? Aujourd'hui, je pense que cette réalité-là, qui est développée très bien sur l'après-guerre, et qui a du sens sur ce qu'est l'Alsace d'aujourd'hui, mais ne dit pas ce qu'est l'Alsace d'aujourd'hui. Je pense que l'erreur serait de penser que ce livre-là, l'erreur, pas de la valorisation de cet ouvrage, qui est utile, qui est passionnant, mais ce serait de penser que l'Alsace est toujours la même. Elle n'est absolument plus la même. Toute la sociologie a évolué, tous les rapports sociaux ont évolué, et ça, on n'a pas les clés de compréhension à la lecture de ce livre, qui, encore une fois, n'est pas du tout un reproche. Et moi, ce que je voudrais simplement dire, pour répondre à la question de la pertinence de l'ouvrage d'aujourd'hui, il y a une pertinence sur une généalogie alsacienne, sur une traçabilité des évolutions, mais sur la clé de compréhension d'aujourd'hui, je suis un peu plus sceptique. Et je pense qu'au contraire, on aurait intérêt à aller au-delà. Et dans un texte que je citerai tout à l'heure, un petit extrait d'Émile Basse, le grand philosophe, qui a fait un bouquin un peu avant, d'ailleurs, Psychanalyse de l'Alsace, qui s'appelle Situation d'Alsace, qu'il a écrit en 1944. Il y a un très bel ouvrage. On a deux personnages très différents. Frédéric Offet, bourgeois protestant, et Émile Basse, catholique, intellectuel. On a deux personnages, donc deux approches assez différentes. Je pense que ce serait judicieux, d'ailleurs, de lire en même temps les deux ouvrages. Eh bien, Émile Basse, il pointe justement ce manque, cette nécessité. Il dit, j'espère que plus tard, on aura plus tard, bon, il écrit en 1951, quand il disparaît, on pourra aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut passer du ressassement, on est dans le ressassement souvent en Alsace, les haines, les malentendus, les incompréhensions, on ressort ça en permanence, il faut passer du ressassement au dépassement. Moi, je pense que c'est cette logique-là, aujourd'hui, qui serait plus féconde pour l'Alsace, que de rappeler les malheurs éternels. Les grands pays qui s'en sortent sont des pays qui gèrent leur histoire. Moi, j'avais été très frappé par le bouquin de Claudio Magris, Danube, où il fait cet itinéraire qui commence d'ailleurs aux sources du Danube, d'ailleurs en forêt noire, et donc il traverse toute l'Europe. Et on voit comment les malheurs peuvent être dépassés dans certains pays. On pense à des pays comme l'Irlande, par exemple, qui ont souffert, ou combien, et qui aujourd'hui sont au-delà de cela, et sont, même si avec le Brexit, il y a des revivals qui viennent. Donc voilà un petit peu cette idée. Pour moi, c'est un livre extrêmement important. Je pense que Frédéric Hoffet mérite une biographie. C'est un des personnages majeurs de la compréhension de l'Alsace, de la bascule fin 19e, 20e siècle, au même titre que Charles Spindler, que Pierre Buchet, par exemple, ou d'autres du même type, Albert Schweitzer, bien sûr. C'est une des clés de compréhension de l'Alsace pour comprendre ce qu'on est aujourd'hui, mais ce qu'on est aujourd'hui, l'Alsace d'aujourd'hui, les Alsaciens, je ne dirais pas l'Alsacien, mais les Alsaciens d'aujourd'hui, ce ne sont pas ceux de 1951.
Jean-Louis, vous avez quelques instants pour répondre à Bernard. Dans la quatrième de couverture, vous dites « Ce livre peut être lu aujourd'hui comme une initiation à la mentalité alsacienne ». Ça, je pense que sur ce point-là, vous pouvez vous accorder peut-être tous les deux.